BFM Radio.
Bonjour à tous, on va essayer de décrypter ensemble la mort de Quentin Derenck et ses suites judiciaires et politiques. Quentin Derenck, 23 ans, militant identitaire, lynché à mort jeudi dernier dans les rues de Lyon par des militants antifascistes en marge d'une conférence de presse donnée à Sciences Po par l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Hier, Lyon a été le théâtre de toutes les attentions sécuritaires. D'abord, la marche d'hier et les suites judiciaires de la mort de Quentin. Sujet de Pierre-Louis Bousset.
C'est sous les chants et les slogans que s'était lancée hier la marche pour Quentin Derenck. Parmi les participants, de très nombreux militants nationalistes et d'extrême droite. Un rassemblement sous haute tension, une semaine après la mort du jeune activiste identitaire. À ce stade de l'enquête, 7 personnes ont été mises en examen et interrogées par les enquêteurs.
2 d'entre elles refusaient de s'expliquer, sur les faits notamment. Les autres reconnaissaient leur présence sur les lieux. Et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenck ou et à d'autres victimes.
En revanche, tous contestent avoir eu l'intention de tuer le militant identitaire. Parmi les suspects, un nom retient particulièrement l'attention, celui de Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud. Il est soupçonné de complicité de meurtre par instigation. Également parmi les suspects, un homme, Alexis C., déjà connu des services de police. Il avait été mis en examen en juin 2024 pour une affaire d'agression antisémite sur un adolescent. Sur les 7 suspects, 6 sont mis en examen pour homicide volontaire et encourent jusqu'à 30 ans de prison. La famille de Quentin Derenck souhaite que les faits soient qualifiés du chef de meurtre en bande organisée.
1, il y a eu des repérages, visiblement. 2, il y a eu des complicités. 3, il y a eu des repérages avec des individus en scooter qui cherchaient des personnes isolées. 4, il y a vraisemblablement utilisation de messagerie cryptée.
Si ce chef d'accusation est retenu par la justice, les suspects pourraient alors encourir la réclusion criminelle à perpétuité.
Alors avec nous, j'accueille en plateau Paul Conge, journaliste PJ de BFM TV. Merci Paul d'être avec nous. Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être avec nous aussi. Et maître Christophe Carion-Martin, avocat de la famille Aramburu. Alors d'abord, Lyon hier, théâtre de cette marche de l'ultra-droite organisée par des proches de Quentin Derenck. À quoi ça ressemblait, Paul? Vous avez pu vous naviguer, si je puis dire, dans cette marche. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Et on rappelle en parallèle qu'il y a 3 signalements qui ont été faits par la préfète de Lyon pour des saluts nazis et des insultes racistes.
Oui, absolument, c'est vrai qu'on a pu traverser la foule hein, en long, en large et en travers. Ce qui frappait, c'est que, alors bien sûr, il y avait beaucoup de petits groupuscules radicaux qui étaient reconnaissables vraiment à leur tenue vestimentaire. Ils étaient vêtus tout de noir, ils avaient des cache-coups remontés, parfois des casquettes, des cagoules aussi, des lunettes de soleil, mais pas de logo d'organisation visible. Ça, on pouvait en chiffrer, je pense, quelques centaines, peut-être un millier, mais la foule ne s'arrêtait pas à ça. Il y avait aussi vraiment même des familles qui étaient présentes. On a vu des personnes qui étaient à la messe auparavant, aussi en hommage à Quentin Derenck.
Il y avait un élu LR aussi,
Il y avait aussi un élu LR, absolument. Mm. Et puis des Lyonnais dont on ne peut pas vraiment présupposer de l'appartenance politique. Mm-hmm. Ce qui fait qu'aussi la foule était estimée à 3200 personnes. 3200 personnes, c'est l'estimation, c'est la fourchette haute de ce que représente l'ultra-droite en France aujourd'hui. Donc c'était clairement pas toute l'ultra-droite. Ensuite, on peut quand même remarquer 2 choses. C'est qu'on a aperçu quelques leaders ou anciens leaders d'extrême droite, par exemple Yvan Benedetti, le fondateur de l'œuvre française, qui est un groupe pétainiste dissous après la mort de Clément Méric, un militant antifasciste tué cette fois par l'extrême droite. On a pu apercevoir aussi le leader néo-nazi Marc de Cacré-Valmenier, bien connu, qui a eu beaucoup de démêlés judiciaires, et aussi un service d'ordre qui encadrait cette marche, qui était très offensif, notamment avec les journalistes. C'était le même service d'ordre à peu de choses près que celui du comité du 9 mai. C'est une marche, une parade quasi paramilitaire qui a lieu tous les ans à Paris, et on les a assez facilement reconnus. Ce qui frappe juste aussi beaucoup, c'est les slogans, c'est ce qui était entonné dans le mégaphone.
Alors, qu'est-ce
depuis
qu'on entendait?
Eh bien, il y avait des choses. Au départ, c'était des hommages à Quentin. C'était
Justice pour Quentin.
Justice pour hommage Quentin. Il y a aussi LFI assassin, Antifa assassin. Mais après, la tonalité a été beaucoup plus politique, enfin plus idéologique, j'ai envie de dire. On entendait un leader nationaliste révolutionnaire dire « On va reprendre ce pays. On est chez nous. Ce pays nous appartient. » Il y a vraiment une vocation très, très politique derrière tout ça. Et ça crée vraiment un moment tout de même très, très tendu, à de nombreuses reprises, des moments très tendus dans la manifestation.
Mais on le rappelle, il n'y a pas eu d'affrontement direct.
Non.
La soirée a été calme. Il y a eu une interpellation à la marge.
Des petites provocations à la marge de la manifestation.
Paul, de très bonnes tenues sécuritaires.
On l'a bien vu, nous, on l'a dit sur le plateau. On a dit, bon, c'est pas normal, les journalistes sont écartés, ils peuvent pas travailler. On a vu un type devant qui mettait en permanence sa main, à visage découvert, sa main devant les caméras.
Oui.
Vous faites plein de manifs, vous avez écrit un bouquin extrême gauche, extrême droite. Est-ce que dans les autres manifs d'extrême gauche, ça se passe pareil? Enfin, s'il n'y a pas de manif d'extrême gauche, mais quand l'extrême gauche est dans des cortèges, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on écarte les journalistes?
Vous avez raison, la comparaison est intéressante. Pour le coup, là, ce cortège était quand même relativement discipliné par rapport à une manifestation d'extrême-gauche. Parce que quand on suit des manifestations d'extrême-gauche, ou alors noyautées par l'extrême-gauche, parce que c'est plutôt ça qui se passe,
oui,
avec un black
ça,
bloc
ouais.
qui se constitue à l'avant. Hein,
là, en
tête de cortège, généralement, là, on est vraiment très très mal accueilli, voire violenté, voire agressé. Ça, c'est arrivé, ça m'est arrivé personnellement, et c'est arrivé à beaucoup de confrères. Donc là, pour le coup, autant effectivement le service d'ordre était particulièrement véhément envers nous, autant on n'a pas été agressé physiquement.
Alors Jean-Yves Camille, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans les images d'hier? Et est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre la géographie et Lyon? Est-ce que c'est un terreau connu de l'ultra-droite en France?
Alors c'est un terreau connu depuis le début des années 2010 pour être un lieu de conflictualité violente.
Donc des deux côtés, des deux bords.
Répertoriés relativement fréquents. Y compris l'usage d'armes blanches, avec des condamnations qui sont régulièrement prononcées, avec des dissolutions de mouvements qui ont aussi été prononcées contre des groupes d'ultra-droite et contre d'ailleurs un groupe d'ultra-gauche. Mais moi je fais très attention à ne pas essentialiser une ville. Je rappelle tout de même qu'à la tête de cette ville, il y a un maire de gauche, qu'avant celui-ci, c'était un autre maire de gauche,
Gérard Collomb,
et que à l'époque où Michel Noir dirigeait la ville, eh bien Michel Noir était parmi les gens de son camp politique, l'un de ceux qui montait au créneau le plus fort contre à l'époque le Front National. Donc faisons attention. Il y a quelque chose que je n'arrive pas très bien à discerner, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans le traitement policier administratif de cette montée en violence, il y a eu ou pas une sorte de un loupé qui a empêché que quelque chose vienne stopper le passage à l'échelon supérieur.
Est-ce qu'à un moment vous sentez la bascule? Est-ce qu'il y a eu un moment où on n'a pas vu quelque chose? Il y a une époque.
C'est un engrenage. Vous parlez d'un engrenage pour bien comprendre.
Non, je ne parle pas d'un engrenage. Je dis que vous savez, il faut se mettre quelque chose dans la tête de manière définitive. Dans une démocratie libérale, les deux radicalités politiques ne seront jamais éradiquées.
Bon, c'est pour cela
qu'il y a un gros malentendu sur l'effet d'une dissolution. Une dissolution, c'est un coup de pied dans la fourmilière, ça écarte des gens, généralement du second cercle, c'est embêtant financièrement, c'est embêtant pour les leaders, mais si on fait le bilan des groupes dissous et qu'on regarde est-ce qu'ils se sont reconstitués ou pas, oui, dans la majeure partie des cas, se sont reconstitués, et on ne peut pas y faire grand-chose, d'abord parce que les peines qui punissent le délit de reconstitution des dissous sont des peines légères et non dissuasives.
Alors là, pour qu'on comprenne bien, vous voulez pointer quelle dissolution? Parce qu'il y a la dissolution de la Jeune Garde en juin 2025. Paul, je parle sous votre contrôle.
Je parle des dissolutions de groupes d'ultra-droite en particulier, qui en fait n'ont pas...
Il y a eu huit dissolutions de groupuscules d'ultra-droite depuis 2019, depuis Génération Identitaire. Il y en a eu une floraison d'autres ensuite. Ouais. Il y a eu les Remparts, Lyon Populaire.
Les Remparts, c'est à Lyon, hein, c'est ça. Hein.
Absolument.
Lyon Populaire, il faut quand même, dans une certaine mesure, reparler de la dissolution de l'œuvre française en 2013. Parce que à l'époque, un certain nombre des dirigeants de l'œuvre française, dont certains qu'on a vu réapparaître hier, sont lyonnais, de la conurbation lyonnaise.
Oui, dont ils vont.
Donc ça les atteignait aussi. Mais à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas empêcher des gens de continuer à se reformer. Et on n'a pas en France, et ça c'est assez regrettable, de dispositifs qui permettent d'accompagner les militants des deux familles politiques radicales vers la sortie.
Une fois que la dissolution est prononcée...
Non, avant.
Avant.
En Scandinavie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, existe ce qu'on appelle des programmes exit. Un programme exit,
et nous, on en a
c'est
pas.
Un programme qui repose sur le fait qu'à un moment donné, un généralement jeune, prend contact et dit, bon, voilà, moi, je pense que là, c'est le moment que je sorte. Mais on sort pas comme ça, on rompt pas comme ça des liens qui sont politiques, mais qui sont aussi des liens de sociabilité.
Donc c'est un accompagnement
C'est un accompagnement à retourner à une vie normale en dehors de la radicalité.
Est-ce que ça marche ?
Ça marche pas mal, ça marche d'ailleurs, ça s'applique à tous les militants radicaux, hein, y compris les islamistes radicaux. Alors là, voilà. C'est plus compliqué.
Est-ce que c'est de la déradicalisation ? C'est ça ?
Écoutez, pour moi, l'important, c'est la neutralisation du potentiel violent. Ensuite, ce que les gens continuent à penser dans leur tête et dans leur salon...
Ça leur appartient.
Ça leur appartient, mais l'essentiel, c'est d'arrêter la violence qui peut mener à l'extrême que l'on vient de voir. Je connais des gens qui sont réellement sortis, qui ont fait un travail de retour sur eux-mêmes, d'analyse de leur engagement, qui ont pris conscience des raisons qui les avaient menés là.
Jean-Yves, ça se passe pas simplement en vieillissant, en grandissant. Comme des voyous qui un jour fondent une famille et puis changent de vie.
Alors c'est un des facteurs effectivement, la fondation d'une famille, le mariage, l'accession aussi à un poste où on se dit bon, j'ai des perspectives de carrière, je vais peut-être pas quand même les saboter définitivement. Et puis des fois c'est aussi une réflexion, une vraie réflexion avec des gens qui se disent je me suis trompé en fait. Je suis pas du côté normal de la barrière. Mais si on ne fait pas un effort pour encadrer cela, parce que ça nécessite un suivi administratif, psychologique, ça nécessite de sortir, y compris géographiquement, les gens de ce milieu, de les aider à avoir un emploi. Ça nécessite effectivement de leur fournir, de les aider à trouver un emploi qui leur assure.
C'est-à-dire que ces gens-là, ils bossent pas ?
Est-ce qu'il y a des profils types ? Est-ce qu'on peut essayer de brocher à grand trait
Ils travaillent, mais l'objectif, c'est aussi de les sortir du travail dans la mouvance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, la mouvance produit un nombre incalculable de vendeurs des marques de vêtements dont on a parlé tout à l'heure. Bon, il faut sortir du micro-milieu. Si vous devenez tatoueur, ce qui est un truc assez fréquent aussi, et que vous continuez à avoir des clients qui appartiennent, peut-être pas majoritairement, mais en grande partie à votre mouvance, et qui viennent se faire tatouer des trucs assez particuliers, il faut, à un moment donné, vous permettre de sortir du truc. Parce que sinon, vous êtes pris dans un réseau de sociabilité dont vous avez énormément de mal à sortir. Parce que ces gens sont aussi en recherche de sociabilité.
Et quand est-ce que commence le point de bascule ? Quand est-ce que ces jeunes, ils entrent dans ces idéologies-là ? Est-ce que c'est dès le collège, dès le lycée ? Il y a des points d'entrée qu'on a repérés ?
C'est très variable. C'est très variable. Vous avez des gens qui rentrent tôt, dès l'adolescence, ou du moins la période du jeune adulte. Et vous avez ce phénomène extrêmement intéressant des personnes ayant dépassé la cinquantaine, voire plus, qui se retrouvent engagés dans un certain nombre de groupes dont les actions ont déjà été judiciarisées, hein, notamment les Barjols, notamment Faux, enfin le monsieur qui détenait à Châteauroux un véritable arsenal et qui avait 78 ans. Je rappelle que lorsqu'à Bayonne, un homme tire, il est décédé aujourd'hui, un homme tire il y a quelques années sur deux chibanis qui sont paisiblement devant la mosquée de Bayonne. Petit 1, il a 82 ans. Petit 2, il a fait de la politique. Et petit 3, quand la BRI intervient, il tire.
Oui.
Ce qui dénote quand même un degré de
détermination
qu'on ne trouve pas nécessairement à seul.
Ça nous amène, maître, à l'affaire à Rambourou. Donc, on en parlait, on la met dans toutes ces affaires de l'extrême droite. Hein, c'est un meurtre.
Alors, on va le rappeler d'abord, Federico Aramburu, il a été abattu par deux militants d'ultra-droite sur le boulevard Saint-Germain, c'était le 19 février 2022. Et vous, vous défendez la famille de Federico Aramburu.
Pardon, maître, avant de vous laisser répondre, moi, je dis depuis des jours sur ce plateau que pour moi, c'est pas un meurtre raciste, que c'est un meurtre de, pardon, pour l'expression, parce que de gars qui ont bu, qui ont picolé, qui s'embrouillent à 4-5 heures du matin et que c'est malhonnête pour moi de mettre ça dans des crimes racistes, alors que les crimes racistes existent en France. Hein. Alors, on est vraiment clair là-dessus. Alors, je me trompe pas, qu'est-ce que j'ignore du dossier ? Qu'est-ce que je dois en apprendre ?
Alors, je suis l'avocat d'abord de Sean Hegarty, qui était l'associé et ami de Federico Martin Rambourou. Mais je représente aussi, parce que la défense est commune, la famille aujourd'hui, et mon confrère Yann Lebraz, ma consœur Véronique Massy, avec qui nous travaillons sur ce dossier. L'affaire de Federico Martina Rambeau, un peu peut-être comme ce que découvrira l'affaire ici, c'est qu'elle va y avoir plusieurs temps. Il y a à voir, effectivement, ce que vous dites, et ce qui est repris pour, notamment par d'autres personnes, qu'il y a une bagarre de bar. Cette bagarre de bar, elle se fait au Mabillon.
C'est la première séquence.
Au Mabillon, devant le Mabillon.
Café sur le boulevard Saint-Germain.
Exactement. Et les videurs du Mabillon, les serveurs du Mabillon interviennent, séparent.
Fin de l'histoire.
Ce qui aurait été l'idéal. Sauf que c'était sans la détermination, ni les menaces, ni la détermination de Loïc Le Priol, Romain Bouvier, qui vont partir à la recherche de Federico Martina Rambeau et de Sean Hegarty, armés, et avec ce qui se passera derrière, c'est-à-dire la multitude de balles reçues, c'est-à-dire que les deux vont vider leur chargeur sur Federico Martina Rambeau.
Mais à quel moment ça devient raciste?
Il n'a jamais été question de raciste.
D'accord.
Et un crime raciste, enfin, c'est une circonstance aggravante. Ouais. D'ailleurs, le débat aujourd'hui est un peu difficile parce que on parle de mobile politique. Nous, avocats, magistrats, le mobile politique, on n'en hérite pas. Il y a des circonstances aggravantes d'un homicide, qui sont celles liées à la religion, au sexe, mais au racisme. Mais c'est tout. Le mobile politique dont tout le monde débat aujourd'hui, il n'existe pas en droit. Et finalement, le droit qui va venir devoir réparer cette affaire...
Juste une question.
Le mobile raciste n'est pas ça. Ce qu'il y a eu, par contre, c'est que immédiatement, ce qui a frappé tout le monde, c'est que les personnes qui étaient impliquées en termes d'auteurs, c'était des personnes qui avaient été, et je l'ai toujours dit, biberonnées aux thèses d'extrême droite ou de...
Voilà. Écoutez-moi, on revient dans un instant. Non, pas de questions, parce qu'on va partir en pub, on revient dans un instant. Ouais, et on y revient, vous dénoncez une asymétrie entre la récupération politique aujourd'hui et le silence assourdissant il y a 5 ans au moment de la mort de Federico Rambeau. On y revient dans un instant.
BFM Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'affaire suivante. On évoque avec maître Christophe Cariou-Martin, avocat de l'associé de Federico Aramburu, la mort de cet ex-rugbyman argentin. C'était le 19 février 2022. Au regard de ce qui s'est passé depuis 8 jours et de la mort de Quentin Durand, vous dénoncez, vous, aujourd'hui, maître, une asymétrie. Expliquez-nous pourquoi.
Non, je dis que c'est monstrueux. Je dis que c'est monstrueux parce qu'un monstre, c'est ce qui n'est pas conforme et ça fait peur. Et ce qui est en train de se passer avec les deux pôles politiques qui essayent de mettre ce crime dans le cadre de la discussion, mais en fait, ça fait peur. Pourquoi ? C'est pas conforme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les politiques, on leur demande d'agir. Et ça fait 4 ans, au moins, et même avant avec l'affaire de Clément, qu'ils n'agissent pas.
Clément Méric.
Et nous, ça fait 4 ans qu'on demande, notamment, que les armes à poudre noire de catégorie D, qui sont accessibles avec une simple présentation d'une pièce d'identité, alors que vous êtes fiché S, alors que vous avez un casier judiciaire avec violence avec arme, alors que vous êtes en récidive, puisse être accessible à tous. C'est une loi qui est simple à prendre. Le gouvernement a agi par arrêté sur les munitions et ne veut pas passer à la loi parce que peut-être il n'y aurait pas suffisamment de précédents. Ce qui, moi, me glace.
Arme qui avait été utilisée par un terroriste à Strasbourg. Arme à poudre noire aussi.
Et je crois que certains de journalistes présents ici savent l'utilisation de ces armes à poudre noire, notamment dans ces crimes-là. Et ça, c'est ce qui est pas conforme. Aujourd'hui, arrêtez de parler. Arrêtez de vous opposer. Agissez. Empêchez le futur. Nous, en justice, en avocat, en magistrat, on récupère tous ces malheurs. Vous croyez que la mère de Federico et la mère de Clémence, si elles se rencontrent un jour, elles vont dire quoi? La mère de Quentin, elles vont dire quoi? Elles vont parler des armes? Elles vont parler de quoi? Elles vont dire, mais pourquoi j'ai perdu un fils?
On entend bien.
C'est vraiment ça. C'est arrêter de parler. Ça fait peur à tous les Français. Ils en ont marre. Bien sûr, vous allez vous battre pour les municipales. Bien sûr, vous allez vous battre pour les législatives et les présidentielles. Mais agissez.
Vous pensez
protéger nos enfants.
Vous pensez que les politiques vous entendent, maître?
Je sais pas, ça fait 4 ans qu'on frappe à toutes les portes.
Bah, au moins,
Payot Dufaux, le député, le porte aujourd'hui sa proposition de loi, qui était portée avant par Florence Lasserre, par, Éléonore Carrois. Ce qui montre bien que c'est une problématique qui est transpartisane.
Mais il faut s'en servir.
Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on sait qu'il y a des pensées, et je ne suis favorable à la liberté d'expression, à la liberté d'association, il n'est pas question d'y toucher. Mm-hmm. D'accord ? Je suis avocat, je milite pour l'état de droit, pour la démocratie. Par contre, la matérialité de la violence, on peut l'éviter. Et la matérialité de la violence, on l'évite comment ? Peut-être en modifiant l'organisation des manifestations où on laisse aux manifestants le soin de choisir leur propre ordre de sécurité. Mm-hmm. Ce qui, là, au lieu de mettre les gens dos à dos, les met face à face. Face à face, il y a des morts. Et puis, il y a ces armes qui sont accessibles par tous et qui font partie aussi d'un endoctrinement et qui font partie de ce qui est distribué dans groupuscules comme comment s'armer légalement.
Quand vous parlez d'armes, vous dites qu'il y a des gens qui connaissent sur le plateau. Moi, je connais ça par cœur. Hein. Et j'avais jamais vraiment réfléchi à cette question. Effectivement, de temps en temps, on entend parler. C'était une arme à poudre noire. Strasbourg, le terroriste, l'affaire Armourou, aidée. Et en fait, il y a des armes, pour ceux qui nous écoutent, qui sont détenues légalement, exactement, catégorie B, par des gens qui sont dans des clubs de tir. Et puis, il y a des armes qui s'achètent, des armes à poudre noire. On les charge de la poudre, on met un plomb, on ferme mais avec un opercule. Et donc, ça, c'est effectivement...
Aujourd'hui, il y a des reproductions d'armes historiques dont les brevets sont intérieurs à 1900, qui sont fabriquées en 2023-2025, disponibles, qui tuent. Vous avez des démonstrations sur les réseaux sociaux de savoir comment on les fonctionne. Oui. Donc, agissez, prenez cette loi.
On a bien entendu.
Il y a un trou dans la raquette qui est monumental.
Ouais. Ok. Paul, je voulais rajouter quelque chose.
Non, pas spécialement sur cette question-là, mais en tout cas,
il
y a une petite distinction que faisait Dominique tout à l'heure entre crime raciste et crime d'extrême droite. Mmh. À vrai dire, c'est pas parce qu'un crime est raciste qu'il est automatiquement d'extrême droite.
Et ça, aussi, on en est d'accord.
Et donc, on peut juste compter les crimes d'extrême droite sans forcément se baser sur la composante raciste.
Alors, simplement, moi, dans le temps qui nous est imparti, on a parlé des gens qui avaient défilé hier. J'aimerais qu'on parle des gens qui sont incarcérés après la mort de Quentin Durand. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ignorent leur pédigré? Comment on définit la Jeune Garde, groupuscule d'extrême gauche qui a été dissoute en juin 2025, et dans ceux qui ont été incarcérés, combien appartiennent à la Jeune Garde, Paul ?
D'accord, alors très clairement, la Jeune Garde, c'est une organisation, un groupuscule, on va dire, antifasciste, qui est né en 2018 à Lyon, notamment sous l'impulsion de Raphaël Arnaud, qui à l'époque est militant antifasciste, n'est pas encore député de la France Insoumise. Au plus haut, cette organisation rassemble 200 personnes, avec des antennes à Paris, à Strasbourg, et donc essentiellement à Lyon. Elle est engagée depuis quelques années dans des confrontations directes avec des groupes d'extrême droite, des violences de rue, notamment. On a aussi d'autres affaires qu'on a évoquées sur cette antenne. Bruno Retailleau a souhaité, ministre de l'Intérieur l'année dernière, la dissoudre. Elle a été dissoute. Maintenant, il y a un recours qui est pendant devant le Conseil d'État. Les avocats de cette organisation veulent revenir sur cette dissolution.
On a bien compris qu'avec ce qui venait de se passer, le recours est déjoué.
Ça paraît compliqué aujourd'hui. Voilà. Alors, de fait, on a effectivement parmi les personnes mises en cause dans le meurtre de Quentin Durand, on a au moins on a identifié 4 personnes qui gravitent dans la mouvance de la Jeune Garde. Bien sûr, le collaborateur parlementaire du député Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau. Mais il y en a 3 autres qui appartiennent ou qui ont été proches de ce groupe.
Celui qu'on a vu dans ce sujet, Alexis C, il en fait partie ?
Alexis C, il en fait partie, tout à fait.
Jean-Yves Camus, en quoi c'est symptomatique de notre époque, cette violence et cette exaspération des deux camps ? Est-ce qu'il y a deux France qui s'affrontent finalement, l'ultra-gauche et l'ultra-droite, ou est-ce que c'est beaucoup trop schématique de dire ça ?
Alors, c'est un peu schématique de dire ça, parce que si on additionne les deux mouvances par rapport à nos 68 millions d'habitants,
on est loin du coup.
On est aux marges politiques. Mmh. On n'est pas non plus dans un contexte de stratégie de la tension à l'italienne, années 70, années 80, parce que la situation géopolitique n'est pas la même, enfin pour des quantités de raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici. Mais on a clairement deux mouvances qui considèrent que l'adversaire ne fait pas partie de la même maison France. C'est-à-dire que ces gens considèrent que l'autre est un ennemi, il n'est pas un concitoyen qui a des opinions diamétralement opposées.
Il est l'autre.
Il est l'autre, chacun a son mode d'anathème, hein. Vous êtes des gauchistes woke altermondialistes, vous êtes des nationalistes fascistes, la bête immonde, etc. Mais ces gens, très clairement, ne considèrent plus que le débat politique dans ce pays doit se régler uniquement par la voie des urnes.
Ça me fait penser à un slogan qui est entonné hier pendant la manifestation, j'entendais « Mélenchon anti-France ». Et ça, je trouve que ça a vraiment écho à ce qu'on est en train de se dire. C'est, on considère donc que l'adversaire, finalement, ne fait pas partie de la même communauté politique, de la même nation.
Ouais. De la même communauté humaine. Oui, de la même communauté humaine, parce qu'à un moment donné, moi j'ai connu une forme de violence qui était codifiée et où il n'était pas question, je crois, chez les protagonistes, d'attenter à la vie d'un homme. de tuer un homme. Alors, des bagarres politiques, il y en avait régulièrement. C'est une très vieille tradition.
Mais c'est quand la bascule pour vous?
C'est une bascule générationnelle.
C'est une bascule générationnelle
avec la fin des mouvements d'extrême-gauche traditionnels. Je rappelle quand même que dans les années 70-80, la gauche prolétarienne, mouvement maoïste, décide à un moment donné, après quelques faits d'armes comme l'enlèvement du DRH de la régie Renault, par exemple, que il faut pas passer à la violence homicide. On est sur un trajet inverse de ce qui s'est passé en Italie. Et puis, du côté de l'extrême droite d'alors, on avait des gens qui étaient motivés très largement par l'anticommunisme, par le climat de l'époque, par le fait que c'était quand même dans les universités tout ce qui était à gauche qui tenait le haut du pavé. Et eux étaient plus marginaux. Et puis à un moment donné, ces gens ont eu des parcours professionnels, des parcours de vie qui a fait sortir la plupart d'entre eux du circuit.
Jean-Yves, est-ce que vous diriez que l'extrême gauche d'aujourd'hui, elle est l'héritière des maoïstes, des trotskistes, de la Ligue communiste révolutionnaire, ou d'Action directe, ou de l'héritière de qui, ou de personne?
Non, elle est comme avant ça tout, parce qu'elle est de société, sur une fausse piste intellectuelle, et qui nuit énormément à la cause qu'elle prétend incarner, et à la cause de la révolution sociale qu'elle prétend incarner, c'est de considérer que le fascisme est partout. C'est-à-dire que finalement, Madame Panot disait tout à l'heure, la République s'est construite contre le fascisme. Alors, est-ce que le maréchal de MacMahon était fasciste? Parce que la République, c'est quand même 1875.
Elle n'a pas les références.
Non, mais si des membres de la représentation nationale n'ont pas ce type de référence que, pour ma part, j'ai appris dans le secondaire, il y a quand même un problème énorme de déperdition de connaissances et de déperdition de sens. Le fascisme, je ne dis pas qu'il n'existe plus, il est marginal. Nous ne vivons pas dans un pays occupé par l'armée nazie et personne ne risque sa vie en décollant nocturnement une affiche ou en taguant quelque chose. On n'est pas à l'époque de l'affiche rouge. Mais il y a, me semble-t-il, chez certains esprits, une manière de se sentir orphelin de cette période. C'est-à-dire que finalement, ces gens voudraient être des héros de la résistance. Ils ne sont que de petites frappes.
Merci. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos analyses, tous les trois. Merci beaucoup pour clôturer cette discussion. Sachez que la France va convoquer l'ambassadeur américain, c'est ce qu'annonce le ministre des Affaires étrangères, pour un tweet. Tweet que vous allez lire à l'instant. L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Durand démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique. Résultat, cet ambassadeur est convoqué lundi au Quai d'Orsay. Écoutez le ministre des Affaires étrangères.
Nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, puisque l'ambassade des États-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame, dont je rappelais tout à l'heure qu'il concerne la communauté nationale. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame, qui endeuille une famille française. À des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, de la place qui occupe la violence et des violences plus généralement, nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent.